Des poches sous les yeux, l'émission.
Et bonjour à toutes et à tous, il est midi, c'est l'heure de retrouver la fine équipe de Des poches sous les yeux, l'émission, avec son plein de chroniques, de livres, peut-être de BD, que sais-je, et d'interviews. En ces débuts d'année où un tumulte menaçant se précise outre-Atlantique, nous avons pris le parti du contre-pied, car nous voici à vous vrai, accueillis une nouvelle fois par Antoine de la librairie Le Tumulte, car oui, le tumulte peut aussi être une chose positive, car comme tu nous le rappelais lors de notre premier passage chez toi, en mai 2022, où tu citais Alain dans Propos sur le bonheur, et c'est un reste de tumulte qui fait les pensées belles. Ainsi ouvrons-nous poétiquement cette nouvelle année que je vous souhaite riche en découvertes et en moments heureux, comme cette heure que nous allons passer ensemble sur les ondes de Radio Béton. Donc, comme je le disais à l'instant, nous avons le plaisir de revenir à Vouvray, accueilli par Antoine à la barre de la librairie Le Tumulte, 6, 1 rue du Commerce, à Vouvray. Bonjour Antoine.
Bonjour. Alors, s'il nous rend visite à nouveau.
Et quelle nouvelle depuis 2022 ?
Le tumulte s'est bien installé. Alors, l'aspect positif, l'aspect négatif, c'est on navigue un petit peu à vue, mais les librairies galèrent un petit peu ces derniers temps, mais ça va. Moi, je suis toujours content d'être là, toujours content de voir mes clients suivre mes conseils, venir me remercier. Donc voilà.
Et donc il y a eu une lune de miel pendant une première année, une deuxième année, et puis la crise rattrape les activités des libraires ou...
Oui, je pense. Puis l'ambiance qui est un petit peu morose. Tu parlais des événements récents au-delà des mers. Il y a celle aussi au-delà des frontières de l'autre côté. Voilà, je pense qu'il y a une ambiance générale qui porte peut-être moins à penser à la culture. Ah oui, alors il y a une fête qui, je ne sais pas si on l'entend.
Mais... Si, fanfare, mais
une fanfare c'est... qui passe devant la librairie. Voilà, Vouvray vivant.
Mais justement, le livre est une bonne arme pour faire face à ces tumultes un peu négatifs auxquels on est confronté.
Tout à fait, mais il faut voir aussi les événements de la fin 2024 dans le monde du livre. Quand un milliardaire s'octroie la plus grande partie de la distribution du livre, que ces grandes sorties sciences humaines sont des livres, on va dire, du même bord que le Blondinet qui s'est installé à la Maison Blanche. Ouais, c'est pas... Non, le monde du livre va pas terrible.
Effectivement, ton fond est assez orienté sciences humaines, sciences sociales. Ça a vraiment un impact sur les livres auxquels tu peux avoir accès?
Ah oui, il y a des catalogues auxquels il faut que je fasse attention maintenant, ouais.
Attention, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire sur les thèses défendues qui ne sont évidemment pas censurées. Si quelqu'un veut me les commander, j'ai l'obligation de lui commander, mais qui ne seront pas présents dans ma librairie. Mais les catalogues gonflent de ce genre de sorties. Il faut être de plus en plus vigilant et les voix alternatives se font de plus en plus rares et quand elles se font entendre, elles se font souvent vilipender vertement.
Alors, ceci dit, ça renforce le rôle des libraires indépendants.
Je pense aussi, oui.
Donc, c'est aussi une carte à jouer.
Certainement.
En espérant que le terreau vouvrionnais soit réceptif à ce que tu proposes.
Ils le sont plutôt. Mes grosses ventes en sciences humaines sont autour de l'écologie et du féminisme. Donc, j'ai toute la raison d'être optimiste à ce niveau-là, oui.
Voilà. Bon, et tu disais qu'il y avait un petit coup de mou économique sur l'activité au point de te poser des questions sur l'avenir de ton activité.
Oui, très clairement. Une baisse de fréquentation, moins de ventes, moins de gens.
C'est une problématique que tes collègues libraires indépendants avec lesquels tu dois quand même pas mal échanger rencontrent aussi.
Oui, on connaît tous ça. Ouais. On a eu un mois de décembre qui a été un peu morose pour des raisons calendaires aussi. Hein. Le Noël 2023 décembre 2023 avec 4 samedis avant Noël. Là, il y en a eu que 3. Les vacances étaient plus tardive l'année précédente. Enfin bon, il y a des événements comme ça aussi. Ouais, puis je pense l'ambiance qui était. J'ai senti un mois de décembre qui était moins à la fête que d'autres années.
Ouais, carrément. J'ai vu un de tes posts sur Facebook qui était un peu alarmant sur des journées blanches à la librairie.
J'ai fait ma première journée blanche à la librairie, ouais. La première en 3 ans et demi.
Et justement, tu es libraire, donc qui est un métier dont beaucoup rêvent, mais tu es aussi de ton propre patron, effectivement, et que l'amour du livre ne suffit sans doute pas seulement à nourrir, et voilà, à remplir ta gamelle.
Alors, je me nourris spirituellement, mais effectivement, il faudrait aussi que je me nourrisse de manière plus pragmatique. Oui, bah c'est le libraire a une image, je crois, un petit peu romantique dans l'esprit français, les lettres, le passeur de culture et autres. Les anglo-saxons sont beaucoup plus franco de port que nous. Ouais. Un libraire, c'est un bookseller, c'est un vendeur de livres. Ouais. S'il vend pas de livres, et ben sa boutique fonctionne pas. Et un libraire ne vit pas d'amour d'eau fraîche et de belle littérature. Ouais, même si la belle littérature, si elle venait à disparaître, lui manquerait. Mais
Et il vit de petites marges aussi.
Oui, ah oui, mais alors ça, pour le coup, je le savais, j'ai pas été pris par surprise.
Et donc, dans ce climat pas forcément ouf, comment tu quelle carte, voilà, qu'est-ce que tu vois, tu peux faire en discutant avec tes collègues, et c'est quoi le revers le long de la ligne que tu peux infliger au marché pour essayer de faire vivre, j'irais, ton projet.
Bah, là, j'ai un projet qui est très récent, auquel je réfléchis depuis très très peu de temps, mais il se trouve que j'ai un espace dans la librairie qui est pour l'instant fermé, qui me sert de bureau pour faire mes retours, pour faire ma compta et autres, que je pense ouvrir pour proposer des cafés d'été, et comme je vends des jeux de société aussi, mettre des jeux à disposition, et pourquoi pas aussi organiser des soirées jeux de société. Donc ça, voilà, je vais essayer d'organiser ça dans le premier semestre 2025, voir si ça prend, puis si ça prend, je ferai les travaux nécessaires pour que le lieu soit de plus en plus agréable, voilà, et puis essayer aussi d'augmenter un petit peu les rencontres, d'augmenter les activités autour de la librairie, des lectures pour les enfants, des lectures pour les adultes aussi, pourquoi pas. Voilà, des rencontres.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce que, au-delà de ces perspectives, il y a déjà des rendez-vous que tu as crantés dans un agenda ou
non,
tout reste à faire?
Tout reste à faire. Là, pour l'instant, j'ai été un petit peu échaudé sur mes premières dédicaces parce qu'il y avait très très peu de personnes, sauf la dernière, mais qui date un petit peu maintenant déjà, puisque j'avais reçu Gilles Marchand et là j'avais eu du monde. Quelques dédicaces précédentes. Notamment une où je n'avais eu tout simplement personne. Alors voilà, il faut sans doute mieux viser les invités, mais en même temps j'ai envie d'inviter moi des gens dont j'ai aimé les livres, dont j'ai envie de parler, que j'ai envie de rencontrer, et pas juste quelqu'un qui aurait vendu beaucoup de livres.
Ouais, qui va faire venir du monde. Ouais.
Ces ventes ne m'intéressent pas. En revanche, ce qu'il me dit à moi, est-ce que, voilà, ça m'intéresse.
Bon. Bah écoute, déjà on te souhaite évidemment bonne chance et bonne réussite dans ces projets.
C'est gentil.
En attendant, tu continues à lire et à découvrir.
Oui, absolument.
Et je vois que tu es venu avec un petit livret.
Oui, sorti cette semaine à La Fosse aux Ours. C'est le dernier livre de Thomas Vineau. Alors Thomas Vineau, c'est un poète qui édite beaucoup à La Fosse aux Ours, qui édite aussi au Castor Astral. Il a écrit quelques romans également. Et là, très clairement, ça se lit en un rien de temps, mais c'est d'une beauté époustouflante. Il part d'une photo qui a été prise durant la Deuxième Guerre mondiale. Un groupe d'enfants qui, visiblement, viennent finir de jouer. Ils sont débraillés, ils ont les pieds sales, ils se curent le nez. Ce sont les enfants d'Izieux, dont on connaît tous la destinée. Et il nous raconte à quel point ça le travail, à quel point il veut participer à ne pas les oublier, il veut participer à ne pas oublier l'atrocité qui a conduit à leur fin, mais il veut aussi rappeler que c'était des enfants, il veut rappeler aussi qu'ils jouaient, il veut rappeler aussi qu'ils avaient certainement des poux, qu'ils avaient des bagarres, qu'ils avaient des rêves, et c'est en très peu de lignes, et il leur rend un hommage absolument magnifique, et voilà.
Et alors ça s'appelle ?
Je veux regarder longtemps leur visage.
Très bien, et c'est paru chez...
C'est paru à La Fosse aux Ours.
Super.
Et c'est Thomas Vineau.
Bah merci pour... ces pages de délicatesse et de souvenirs que tu nous proposes. On va te laisser retourner à ton activité professionnelle. Quant à nous, depuis quelques mois, nous profitons de nos directs pour partager des remixes sonores de Fab Caro, extrait de Moins qu'hier et plus que demain, avec quelques voix que l'on reconnaît.
J'ai envie de faire caca.
On va bientôt faire une pause.
On met de la musique. J'ai faim.
On va s'arrêter à la prochaine aire.
J'ai envie de vomir.
On arrive.
Pff, je t'avais dit de pas prendre d'autostoppeur, c'est relou.
Voilà, merci. On va s'offrir une première pause musicale avec Jacques qui sera sur la scène de la première édition du festival Au Quart d'Hiver vendredi 28 février. On écoute son son, qui que ce soit.
Je me promène dans la rue, phénomène délirant. Un défilé d'inconnus au profil différent. Chacun de son point de vue regarde l'autre fixement. Avant de devenir moi, j'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Je discute avec qui que ce soit. Mon point de vue est gratos, je le donne à qui que ce soit. Union devant le matos, ça balance du qui que ce soit. Que d'amis que je connais pas, qui que ce soit qui apparaît, peut s'ériger en ami. Les gens que je croise dans la vie rendent l'amour accessible, ils me débouchent la vue, élargissent x fois, c'est pour ça, je suis ouvert à qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. D'où que tu viennes et qui que tu sois, ramène-toi avec qui que ce soit, on remet le qui que ce soit. N'est qu'une version de toi, bifurquée au fil du temps vers un perso différent. La vie s'installe dans des corps dont la forme n'est qu'accessoire. Un destin de cas social, ça arrive à qui que ce soit, c'est pour ça. Reste ouvert à qui que ce soit, rappelle-toi, t'aurais pu être qui que ce soit. Des vêtements pour qui que ce soit, à manger pour qui que ce soit, un terrain pour qui que ce soit, de l'amour pour qui que ce soit.
Ramène-toi avec qui que ce soit.
Les enfants veulent deux visages, ils deviennent qui ils sont. Chaque instant à tous les âges, c'est une nouvelle émotion. Qui je suis, je ne sais pas, c'est le cas de qui que ce soit. Quoi que tu portes et qui que tu sois, sache que je kiffe ton style ce soir. Style ce soir, style ce soir, je le dis de vive voix. Vive voix, vive voix, je souris à qui que ce soit. Qui que ce soit, qui que ce soit, on se remet le qui que ce soit. C'est pas plus compliqué que ça, reste ouvert à qui que ce soit.
Vous êtes bien sur Radio Béton 93.6 en direct ce samedi de la librairie Le Tumulte à Vouvray. C'est Odile qui ouvre le bal des chroniqueurs, si je puis dire. Et je le dis d'ailleurs, je le peux. Tu nous emmènes en Afrique du Sud.
Oui, avec Malgré toute ma rage de Jérémy Fell, paru chez Rivage Poche. Alors, Jérémy Fell, c'est un romancier français que je suis depuis son premier roman qui s'appelait Elena, que j'avais chroniqué en janvier 2020. Et là, on est déjà à son quatrième roman et je dois dire que c'est pour moi le roman le plus abouti. Je ne vois aucune faiblesse. Donc, préparez-vous à dévorer ce roman qui est un thriller psychologique réussi. Alors, l'histoire commence ainsi. Par le massacre d'une jeune fille au fond d'une cave. Alors, la personne qui décrit la scène est l'agresseur. Et cet agresseur prend un réel plaisir à torturer, à massacrer, à anéantir sa victime, qui est une jeune fille. Et l'agresseur regrette juste une chose, c'est de ne pas pouvoir filmer la scène, parce que comme ça, il pourrait se la repasser régulièrement.
Évidemment.
Mais bon, pour ne pas se faire pincer par la police, il ne le fait pas. Donc vous voyez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et ensuite l'histoire se construit peu à peu. C'est l'histoire de quatre jeunes nénettes mineures ou à peine, elles viennent de passer le bac, elles ont 17-18 ans. Ce sont des petites parisiennes super friquées qui ont réussi à persuader leurs parents de passer leurs vacances d'été entre copines sans les darons. Bon, jusque-là, c'est normal. Sauf qu'elles, elles ont convaincu leurs parents d'aller où ça ? En Afrique du Sud, toutes seules. Où ça ? Au Cap, une charmante bourgade pittoresque. Bah non, non, je déconne. Le Cap, c'est quand même une des villes les plus dangereuses au monde. Donc elles ont décidé de profiter des superbes paysages que propose l'Afrique du Sud et de mettre de côté toute la violence, la guerre des gangs quotidienne, puisque de toute façon, en dehors des excursions, elles seront à l'abri dans une villa hyper sécurisée. Or, bien sûr, c'est l'une de ces filles qui finit quelques jours plus tard assassinée dans la cave et dans un quartier craignos du Cap. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne sait pas qui est la victime et on ne sait pas qui est l'assassin, bien sûr. Et donc, la victime est une de ces quatre jeunes filles, mais on ne sait pas laquelle. Et donc, ensuite, les chapitres se succèdent et chaque chapitre est précédé par le nom du narrateur qui s'exprime à la première personne. Et donc, on a une espèce de monologue intérieur. Et donc, nous, en tant que lecteurs, on n'est pas du tout déroutés puisqu'on sait qui parle à chaque fois. Et donc, ce qui permet à Jeremy Fell de nous offrir une vision kaléidoscopique de son histoire. Toute l'intrigue va être la quête de la vérité, c'est-à-dire connaître l'identité de la victime et bien sûr connaître l'identité de l'assassin. Alors sur place, bien sûr, il y a un inspecteur local qui mène des investigations. Donc dans un monde qui est vraiment très marqué par les rapports de domination, on peut dire que ce sont les restes de l'apartheid qui sont omniprésents. Chaque protagoniste donc va nous aider à découvrir d'abord très prosaïquement l'emploi du temps des jeunes filles avant le drame. Donc en fait, elles ont passé 4 ou 5 jours à faire du tourisme avant que le drame arrive. Donc on va voir les rencontres qu'elles ont faites, le déroulement des journées écoulées avant le meurtre. Et grâce à ces informations fragmentées, nous aussi on mène l'enquête en même temps que l'inspecteur, en pensant bien sûr avoir une longueur d'avance. Ce qui n'est absolument pas le cas, autrement je n'aurais pas chroniqué ce roman. Alors bien sûr, les filles vont s'avérer être beaucoup plus aventurières et moins innocentes que prévu, autrement ce ne serait pas drôle. Des secrets vont être mis à jour. Bon, bref, la fin du roman se déroule à Paris. On se retrouve avec les survivantes et leurs parents. Et tout se passe dans le milieu, dans le monde feutré et néanmoins féroce de l'édition. Ah. On se demande si Jeremy Fell n'a pas des comptes à régler. Le roman est hyper documenté. Franchement, on peut reprendre tous les déplacements de leur première journée d'excursion et de visite pour se faire un chouette voyage en Afrique du Sud. Bon, il faudra juste éviter forcément la cave. Mais vraiment, on s'y croirait. Et c'est très intéressant parce que ça change des documents historiques qu'on peut lire sur l'après, le post-apartheid. Parce que là, vraiment, on voit comment certaines parties de la population vivent au jour le jour. Et c'est intéressant. Et quand je dis au jour le jour, c'est plutôt la nuit. Et on voit à quel point là, certaines personnes ont besoin de se lâcher. J'ai envie de créer un nouveau concept. Dis-moi comment tu te divertis et je te dirai qui tu es, quelle société tu es. Non ?
Oui, si oui, tu veux.
D'accord. Bon, donc c'est un polar vraiment très, très réussi. La particularité de Jeremy Fell, c'est... Bon, moi, tu sais, moi, j'adore les romans, petites phrases brutes, incisives, courtes, les romans à la mode. Mais alors lui, c'est tout le contraire, parce qu'il adore faire des longues descriptions, hyper détaillées, donc hyper factuelles et néanmoins très précises. Et en fait, plusieurs fois, moi, j'ai pensé à Bret Easton Ellis. Et c'est vrai que Jeremy Fell, il ressemble beaucoup plus aux jeunes auteurs, enfin, plus très jeunes d'ailleurs, mais aux auteurs américains contemporains qu'à ses collègues français.
Sans le name-dropping.
Non, mais le fait qu'il y ait plein de descriptions qui sont en continu me faisait penser à Brett. En fait,
à Brett, à sacré Brett.
Donc, en fait, avec un style vraiment incroyable, il nous peint les pires horreurs de l'âme humaine. Et franchement, on peut dire qu'il y a une noirceur abyssale dans ce qui imprègne ce roman. Ça fait vraiment peur. Donc, préparez-vous à gémir, à vous sentir sale, voyeur et prisonnier. Mais de toute façon, vous serez captivé par « Malgré toute ma rage » de Jérémy Fell, F-E-L, paru chez Rivage Poche.
Ah, merci Odile. Dis donc, tout un programme. Donc, on va quitter l'Afrique du Sud. On va traverser l'Atlantique et on retrouve Richard Russo avec Nadia.
Voilà, c'est un peu le contre-pied du livre que vient de vous présenter ma camarade. Alors, est-ce que tu connais Richard Russo ?
Écoute, je connais bien Brett, hein, mais Richard en moyen.
Bon, c'est un des grands écrivains américains qui est multiprimé. Et tu sais quoi ? Ben, j'ai lu tous ses livres. Et là, c'est le 14e livre de Richard Russo, et ça s'appelle « Le testament de Sully », et c'est édité à la Table Ronde. Alors, ce livre, il vient clôturer une trilogie qui avait commencé par « Un homme presque parfait », suivi de « L'hilarant, un malin, malin et demi ». Et ici, on retrouve les habitants de la petite ville de Norbath, qui vient de se faire annexer par sa riche voisine, Sugar Spring. Le personnage central de cette saga, Sully, est donc mort il y a maintenant 10 ans. Il reste une petite plaque commémorative sur le tabouret du bar du Hors, sur lequel il s'asseyait tous les jours, de 15h à minuit, voire plus le week-end. Alors n'allez pas croire que c'était un pochetron. Non, Douglas Sullivan était un personnage charismatique, homme à tout faire, il était connu de tous. Certains appréciaient sa générosité, d'autres doutaient son sens de la répartie. Il avait le souci des autres, et l'âge avançant, il avait demandé à son fils Peter de prendre soin de ses amis. C'est Peter maintenant qui habite la maison de ce dernier. Et c'est fou comme il ressemble à son père, à son grand dépit. Alors qu'il était destiné à être enseignant, il restaure des maisons, comme son père. Peter a longtemps eu des relations tendues avec celui-ci, à qui il reprochait son absence pendant son enfance. Il avait renoué sur le tard avec lui. Peter a lui aussi divorcé et n'a élevé que l'aîné de ses 3 garçons. Il n'est pas le seul à répéter son histoire. Tenez par exemple Janet, la patronne du diner, qui avait subi les violences de son mari. Elle vient de s'acoquiner avec Dale, un flic véreux qui a la tête près du bonnet. Elle aussi avait des relations tendues avec sa mère, qui était la maîtresse de Sully. Toujours est-il que les relations avec sa fille Tina sont pour le moins rugueuses. D'autres, au contraire, se transforment. Rob, l'acolyte timide et malin de Sully, a subitement perdu son bégaiement. Moi, je manque de salive, là. Et Raymer, le chef de la police de Norbath, va en thérapie pour dompter son démon intérieur. Il va avoir besoin de sa sérénité, car un pendu vient d'être découvert dans un vieil hôtel désaffecté, opportunément nommé le Sans-Souci. Il doit aussi s'occuper du frère jumeau de sa maîtresse Clarisse, un dénommé Jérôme Bond, qui avait plaisir à se faire appeler James Bond avant sa dépression. Clarisse est la chef de police de Sugar Spring et elle a fort à faire avec Dale, jaloux de cette promotion, qui n'apprécie pas d'être commandée par une femme noire. Ces quelques événements et la visite impromptue du fils cadet de Peter vont mettre en branle une série d'interactions, d'incidents, voire d'accidents, qui va être l'occasion pour les habitants de Norbath d'interroger la place et le rôle de chacun, et puis finalement de s'entraider, car Sully avait demandé aux uns et aux autres de veiller sur ses amis. Alors comme d'habitude avec Richard Russo, c'est sensible, cocasse, désopilant, voire hilarant. Encore une fois, quelques passages m'ont fait éclater de rire. Alors, en ces temps moroses, faites-vous du bien, offrez-vous le testament de Sully de Richard Russo à la Table Ronde. Le premier opus de la trilogie a fait l'objet d'un film avec Paul Newman, donc de quoi passer un bon moment.
Merci beaucoup Nadia. On va s'offrir une seconde pause musicale un peu plus dansante cette fois-ci avec Aziz Concrete qui sera également au Festival au Quart d'Hiver le vendredi 28 février. Alors poussez les meubles et n'hésitez pas à bouger votre corps. We'll be right back. Sur les ondes de Radio Béton 93.6, c'est Des Poches Sous les Yeux, l'émission, toujours en direct de la librairie Le Tumulte à Vouvray. Je passe le mic à Pascal car c'est l'heure de l'interview.
Clara Breteau, bonjour.
Bonjour.
Alors, je t'avais interviewé il y a 2 ans pour Livier Autonome chez Actes Sud. Là, on te reçoit aujourd'hui pour L'Avenue de Verre, paru en ce début d'année chez Seuil. Actes Sud, Seuil, un beau tableau de chasse pour une jeune autrice. Là, comment tu fais pour décrocher des éditeurs prestigieux comme ça ?
Je sais pas, il y a une sorte d'enchaînement. C'est vrai que quand on publie un livre, après il y a un peu plus de crédibilité. Soi-même, on se sent un peu plus légitime peut-être pour continuer à écrire. Et puis dans le paysage littéraire, oui, peut-être que...
Il y a voilà, plein d'auteurs qui galèrent
beaucoup
à trouver des éditeurs. Toi, t'en trouves. Et en plus, pas des petits, quoi.
Oui, bah disons que là, le seuil, c'est un peu le j'ai d'abord envoyé le manuscrit à 5 maisons d'édition, pas beaucoup. Là, le seuil, ils ont répondu quasiment tout de suite. C'est vrai que le seuil, en fait, c'est donc comme c'est un livre quand même sur mon père, qui est algérien, le trauma colonial. Le seuil, ils ont vraiment une longue histoire de publication d'auteurs algériens et puis d'essais sciences humaines aussi sur la guerre d'Algérie. Ils se sont engagés vraiment pour l'indépendance, tout ça. Donc, ça faisait vraiment du sens dans leur catalogue, dans leur histoire de s'engager sur ce livre aussi.
Donc les vies autonomes dont on parlait tout à l'heure, c'était une enquête, hein, mais avec La Nuit de Verre, c'est plus une autofiction. C'est un projet que tu portais depuis longtemps ?
Oui, tout à fait. Lors de mon premier essai, là, mon premier livre, je travaillais déjà sur le roman L'Avenue de Verre. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais j'étais dans la phase préparatoire, phase de recherche, de maturation un peu, qui a mis 4-5 ans. Et voilà. Et par contre, l'écriture a été très vite. Elle s'est faite en 6 mois. Donc, c'est à la fois une espèce de lente érosion sur des années et un éboulis très rapide en termes d'écriture.
Alors, c'est l'histoire d'Anna, hein, née sous X, avec un père qu'elle croise parfois dans la rue puisqu'il est laveur de vitrines. Il a une autre famille. Il était algérien et arrivé en France au début des années 60. Et après sa mort, Anna va enquêter sur l'histoire de son père. Donc un roman autour de plusieurs axes. Hein, un père absent mais visible, comme une allégorie de cette matière si spéciale, le verre, à la fois présente et invisible, surtout si le laveur fait bien son taf. Et puis une quête sur l'histoire de son père, son histoire algérienne. Une guerre qui se déclare pas, mais un conflit qui durera en fait des décennies. Donc tu nous fais découvrir peut-être la guerre d'Algérie que finalement on n'enseigne pas tellement à l'école.
Ouais, tout à fait. Et au-delà de la guerre d'Algérie, la colonisation française de l'Algérie. En fait, c'est vrai que pendant très longtemps, moi, j'ai été, mon père a été donc une figure locale de la ville, très souriante, populaire, blagueur, tout ça. Et pendant longtemps, j'étais un peu prisonnière de cette histoire, cette image qu'il avait comme ça, très rieuse et sans passé, sans histoire. Et ma scolarité, ça m'a pas incité à creuser derrière, puisque je crois que l'Algérie, et la guerre, on l'aborde dans le gros paquet décolonisation au lycée, mais on fait même pas une séance sur la guerre d'Algérie et la colonisation française de l'Algérie, quoi. Et c'est que très tard que finalement j'ai trouvé ça un peu suspect, ce silence qui entourait mon père, son l'Algérie, tout ça, et que j'ai commencé à lire. Ça fait qu'il y a quelques années en fait, hein, vers 35 ans, ce qui est quand même très tard. Et là, j'ai appris que donc depuis le début de la colonisation, avec tous les massacres, les confiscations, tous les noms de villages, tous les noms de familles renommés, enfin transformés par les colonisateurs, tous les systèmes d'appartenance en fait détricotés, j'ai compris que tout ça, ça avait transformé les Algériens, comme dit l'écrivain Mohamed Dib, en fils de personne. Et ça, cette expression, elle m'a bouleversée, parce que du coup, j'ai compris que quand on est fils de personne, on peut être père de personne aussi. Et tout d'un coup, toute sa double vie, son métier de laveur de carreaux, ça a pris une autre dimension pour moi. J'ai compris à quel point, loin d'être une anecdote sympa de l'histoire de la ville, c'était aussi quelque chose de très révélateur, emblématique du monde colonial dans son entier. Et là, je me suis dit, d'accord, en fait, là, il y a quelque chose à écrire, parce que soudain, je voyais l'imbrication de la petite histoire, la grande histoire, et... voilà, c'est comme ça que ça...
Et tu as choisi Anna pour raconter ton histoire.
Ouais, tout à fait. Alors, elle a déjà un besoin de distance, de protection, puisque c'est une histoire un peu douloureuse, à plein d'égards, non seulement à moi, mais une sorte de trauma collectif. Hein. Ensuite, c'était vraiment ce qui était pertinent, parce que moi, j'ai grandi toute mon enfance, je voyais mon père de loin. Il me faisait des petits signes de la main, mais j'ai grandi avec... Il était dans la distance. Moi, pour lui, j'étais dans la distance. C'est comme si j'avais intériorisé le regard qu'il avait sur moi de loin. Donc, c'était juste par rapport à l'histoire aussi d'écrire à la troisième personne. Et alors, ce qui est drôle, c'est que je me suis dit, du coup, il me faut un prénom. Donc, Anna, Clara, ça se ressemble un peu. Anna, c'est cool dans la phrase. La phrase ne va pas buter dessus. Et après, plusieurs mois après, j'ai appris qu'en fait, Anna, en arabe, ça veut dire moi. Donc... Quand en passant à la troisième personne, finalement le jeu est revenu par la grande porte, mais un autre jeu, un jeu qui parle pas la même langue, un jeu qui vient d'ailleurs, précisément ce jeu que j'arrivais pas moi à incarner, ce jeu qui me manquait, ce jeu algérien et colonial, voilà.
Alors la poésie qui était déjà présente dans ton précédent bouquin là, avec le métier du père d'Anna et cette matière le vert, c'est vraiment l'occasion pour toi de parsemer ce bouquin de poésie quand même.
Oui, alors c'est à la fois une métaphore filée, mais c'est pas vraiment une métaphore en fait, puisque l'avenue de Vers, c'est un lieu à Tours, c'est un organe presque urbain, un écosystème. Donc c'est comme si je faisais un bouquin sur la Loire et puis on disait la Loire, c'est une métaphore. Ben non, la Loire, c'est la Loire, c'est un être, c'est un corps, voilà. Mais c'est vrai que ce corps, je peux m'amuser avec parce qu'il a plein, il est feuilleté, comme les vitrines de l'avenue de Vers, de l'avenue de Gramont, la rue nationale sont feuilletées en fait. Il y a souvent plusieurs couches de plexiglas et de verre superposées. Cette avenue de Vers, elle est feuilletée aussi dans le sens où elle est imaginaire, elle est physique, elle est économique, elle est politique. Et donc, j'ai décidé de jouer avec tout ça. L'idée m'est venue une fois, j'arrivais en bus en gare du Mans. Et là, j'ai vu un laveur de carreaux qui nettoyait une vitrine au beau milieu de l'esplanade. Et là, je me suis dit, mais s'il continue, les gens vont se prendre la vitrine, quoi. Et là, j'ai pensé à mon père et je me suis dit qu'en fait, laver les vitres, c'est pas juste faire de la transparence, c'est aussi prendre soin d'un obstacle. Là où il y a un obstacle, faire croire qu'il n'y en a pas, le rendre plus dangereux encore. Et c'est là où j'ai commencé, j'ai tiré sur le fil et j'ai vu toutes ces dimensions qu'il y avait autour du verre et j'ai décidé de travailler avec ça.
J'étais frappé de la façon dont tu parles de la guerre d'Algérie, une guerre qui ne dit pas son nom, hein, une opération spéciale, parce qu'il n'y a pas que les événements de fin des années 50-60, c'est en fait toute l'histoire de l'Algérie, et tu le décris dans des termes qui finalement m'ont fait penser à l'Ukraine. Quoi. C'est une espèce de non-guerre, mais qui fait beaucoup de morts.
Oui, alors ça c'est drôle parce qu'en fait, la toute première scène que j'ai écrite du livre, c'était au début de la guerre en Ukraine. Et un jour, je me suis réveillée et toutes les vitres de mon appartement étaient couvertes de sable. Et en fait, j'ai appris que toute la ville de Tours était couverte de sable, toute la France entière, c'était le Sirocco, c'était un vent du Sahara chargé de sable. Et voilà, et donc je décris ça parce que mon grand-père, le père de mon père, venait du Sahara. Et donc j'ai cru à l'hiver nucléaire, j'ai cru qu'il y avait une explosion atomique. Je me suis dit, mais c'est un sable rouge en plus, tout l'air était rouge. Et voilà, ça créait un climat de guerre. Et donc ça m'a ramenée à la fois dans cette histoire algérienne. Et donc j'ai fait un peu le lien. Donc dans le chapitre, dans le livre, je mets un peu en relation la guerre en Ukraine et ces ancêtres algériens qui, à l'occasion de ce sable du Sahara qui vient couvrir les vitres, me rendent visite presque et viennent me montrer que ce qui est très loin, très étranger, peut venir se coller à la surface de mon quotidien, peut venir se coller exactement sur ces vitres que nettoyait mon père. Et voilà, donc comment ces traumas qui paraissent très loin, ces guerres peuvent venir nous chercher, vraiment nous prendre par la main, quoi.
Et tu décris bien cette histoire sanglante, cette histoire coloniale sanglante en Algérie, alors que des politiques parlent encore des effets positifs de la colonisation. Là, tu casses toute l'image, là, quand même.
Oui, en ce moment, c'est fou parce que tout ce qu'on vit en ce moment, c'est encore lié à ça, tous les chaos de la Ve République, de l'instabilité parlementaire aujourd'hui. En fait, la Ve République, c'est une création c'est un régime qui a été instauré pour résoudre les problèmes de la guerre en Algérie par De Gaulle. On est vraiment encore à se dépatouiller, de se débattre avec les conséquences de cette guerre. Et oui, je parle de la guerre totale de Bugeaud, du général Bugeaud qui massacrait les populations, qui coupait les têtes de tous les chefs, qui les ramenait en France. Donc pendant longtemps, je parle de cette collection macabre de têtes de chefs algériens décapités qui ont été exposées dans les vitrines du Musée de l'Homme pendant longtemps. Et c'est parce que quand même, au bout d'un moment, les gens ont dit mais c'est scandaleux, enfin comment ça se fait qu'on garde des restes humains, on déclare ça possession de la France, inaliénable, etc. Donc maintenant, elles sont dans les armoires, mais bon, certaines ont été restituées, d'autres non. Mais on a encore des têtes de chefs décapités dans nos musées, on trouve ça normal. Et on prétend que la colonisation était une entreprise civilisatrice.
Comme Anna, tu es partie en Algérie sur les traces de ton père ?
Alors oui, un voyage. En fait, c'était bon, c'est un voyage c'est une espèce d'incursion, vraiment juste pour avoir presque pour se dire, j'y suis allée, quoi. C'était un blocage et c'était un voyage un peu un acte manqué parce que j'y ai passé une semaine et en fait, dès que je suis sortie de la capitale, j'ai eu une poussière dans l'œil et mon œil s'est bloqué. Donc en fait, j'ai passé tout le week-end avec la main sur l'œil, tous les yeux qui pleuraient, incapable de voir en fait. Mon corps refusait de voir. Et tout le trauma colonial, c'est ça, en fait. C'est un truc qu'on n'arrive pas à dire, c'est quelque chose qui passe pas. Et c'est le corps qui parle à notre place, et du coup, qui fait qu'on fait pas du tout ce qu'on veut et qu'on ramène pas du tout ce qu'on croit ramener du... Par contre, j'ai ramené une chanson, comme je pouvais pas voir. Je pouvais entendre malgré tout, et j'ai ramené cette chanson à Vava Inouva, qui est devenue très importante pour moi, et qui a longtemps été le titre de travail du livre, qui est très importante pour plein de gens, d'ailleurs, qui a été un tube mondial en langue berbère, et voilà.
Parce que tu t'intéresses à l'histoire de ton père, mais à son histoire, à la filiation, au père du père, quoi, en fait.
Oui, en fait, là, c'est pas vraiment... C'est un roman sur mon père, certes, mais c'est mon père, c'est surtout l'occasion pour moi d'essayer de réattraper derrière, désensevelir toute la foule coloniale, donc mes grands-parents, leurs tribus, parce que là-bas, on appartient à des tribus, leur pays, quel était le pays dans lequel ils vivaient, c'était des nomades, donc ils naviguaient entre les Aurès et le désert du Sahara, et puis toute la foule coloniale engloutie qui a disparu dans les trous de l'état civil, comme dit Kateb Yassin. Voilà, c'était l'enjeu surtout ça, parce que j'avais aucune passerelle, rien, c'est comme si l'Algérie avait déménagé sur une autre planète, quoi, ou c'est comme si le pays n'existait plus pour moi, tellement mon père l'avait, encore une fois recouverte de sable. Donc ce roman, il s'agit de derrière mon père, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi, de retrouver la foule coloniale derrière lui.
Merci Clara pour ce livre, hein. On pourrait croire que le sujet est plombant, mais en fait il est... il est très poétique, il est très intéressant à lire. Voilà, un petit conseil de lecture, qu'est-ce qu'une écrivaine peut nous proposer ?
Alors j'ai découvert il n'y a pas longtemps Agnès de Sarthe, qui est dans la région, en tout cas Mangez-moi, et c'est une femme donc, qui a un passé un peu trouble et qui décide d'ouvrir un restaurant de briques et de broc un peu avec 3 francs 6 sous, et on la suit dans cette aventure-là, et c'est à la fois très... bah, très physique, ça parle de nourriture, mais c'est aussi très existentiel et très plein d'humour, plein de vivacité, plein de sensualité, de l'onirisme aussi, une dimension politique. Agnès de Sartre, elle écrit des livres pour enfants, et moi je la connaissais comme ça, littérature jeunesse. Mais là, c'est tout ce que voilà, c'est extrêmement vivant, sensuel, et j'ai vraiment adoré. Mangez-moi.
Eh bien, merci Clara.
Merci Pascal, merci Clara. Donc l'Avenue de Verre paru au Seuil. On retourne quant à nous découvrir la prog d'Ocar d'Hiver. Cette fois-ci pour la soirée du samedi 1er mars avec Cyclone et leur son Mutation. De retour en direct de la librairie Le Tumulte à Vouvray, c'est au tour d'Olivier de nous offrir sa chronique. Il paraît qu'on va à Liverpool, mais avec Olivier, on n'est jamais sûr de rien en fait.
Oui, avec le désosseur de Liverpool, ou plus exactement, le désosseur de Liverpool. C'est vraiment le genre de titre qui vous glace illico l'épine dorsale et vous humidifie tout aussi promptement le fond du slip, et ce avant même que vous ayez lu une seule ligne du roman qui l'introduit.
Ça y est, t'as dit le mot slip.
Oui, c'est contractuel, je suis obligé.
Je suis au courant.
En plus, l'éditeur a jugé bon d'en rajouter une couche en imprimant en haut de la couverture un avertissement lourd de menaces implicites. Ne vous promenez pas dans les bois. Alors même si les points de suspension finaux laissent planer le doute sur les raisons pour lesquelles il faudrait éviter, selon le service marketing d'Archipoche, c'est l'éditeur, de se promener dans les bois, on pressent tout de suite qu'il s'agit moins d'un conseil avisé du type « Ne vous promenez pas dans les bois parce que vous risquez de saloper vos mocassins à glands en marchant par inadvertance dans une bouse de sanglier » que d'une mise en garde contre un danger dont la nature est assez clairement précisée dans le titre, donc « Le désosseur de Liverpool ». À mon humble avis, la recommandation est quelque peu superflue, pour ne pas dire inutile, parce que je suis presque sûr que personne n'a spontanément envie d'aller faire une petite balade digestive dans des bois où il risque de tomber sur le désosseur de Liverpool. Et c'est dommage, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise quand on accepte de s'abandonner au hasard des rencontres inopinées. Et si ça se trouve, il est très sympa ce désosseur de Liverpool, du genre à voir filer des tuyaux sur les super coins à champignons, ou à vous passer un Kleenex pour nettoyer vos mocassins à glands si vous avez marché par inadvertance dans une déjection de marcassins. Le problème, et là on n'est quand même pas loin du délit de sale gueule, c'est que quand on entend désosseur de Liverpool, on a forcément un peu de mal à ne pas se laisser gagner par les a priori. On pense que désosseur, ça ne doit pas être un job super funny. Même si, comme disent les imbéciles qui n'ont jamais eu l'occasion de discuter avec le bourreau de Béthune ou avec le loup de Wall Street, il n'y a pas de ce métier. Alors, il n'y en a pas, d'accord, mais je n'ai pas souvenir, quand j'étais au collège, d'avoir jamais entendu la conseillère d'orientation proposer à quiconque de faire un CAP de désosseur de Liverpool. Et si quelqu'un s'était aventuré à lui demander des renseignements à ce sujet, elle aurait très certainement essayé de le dissuader, de s'engager dans ce type de cursus, arguant qu'il offrait peu de débouchés et exposé à nombre de désagréments, aussi bien du point de vue légal que moral. Alors, il faut reconnaître qu'on voit rarement dans des petites annonces des offres pour un poste de désosseur de Liverpool, en particulier si on n'habite pas dans le nord-ouest de l'Angleterre. Mais bon, quand on a la vocation, est-ce qu'il faut baisser les bras pour si peu ? Non, il faut persévérer, aller au bout de ses rêves. Hein. Pour celui qui nourrit une passion mêlée pour les travaux manuels, pour les jets de sang en pleine poire et les hurlements d'effroi, je veux bien croire que désosseur de Liverpool puisse constituer une activité professionnelle des plus attrayantes. Même si c'est sans doute bien plus technique et beaucoup moins fastoche qu'on l'imagine. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un couteau à désosser entre les mains, mais on voit tout de suite que c'est un outil de précision qui nécessite d'être manié avec une dextérité, comme qui dirait, experte. Rien à voir avec le couteau à émincer dont la lame bien plus large laisse supposer une utilisation grossière dans le cadre de ce qu'il est permis d'appeler un boulot de sagouin. Ou avec le couteau à tartiner les biscottes qui mérite à peine sa place dans le monde merveilleux de la coutellerie, tant son tranchant quasiment nul prête véritablement à pouffer. C'est pour ça, entre autres, que dans la rubrique « Serial Killer » de la nomenclature des catégories socio-professionnelles, le désosseur de Liverpool trône à la place d'honneur, alors que l'émasseur de Glasgow ou le tartineur de biscottes de Birmingham sont relégués dans les sous-divisions des ringards à mocassins à glands. Bien sûr, à glands. Pour ça, et aussi parce que l'association Fonction Toponymie fait méchamment mouche, hein, le désosseur, oui, mais de Liverpool. Hein. Si vous changez le nom de la ville, déjà, ce n'est pas du tout pareil. Ça perd une grande partie de son charme et il y a de fortes chances qu'un gus qui s'est mis en tête de désosser son prochain dans le midi de la France ait du mal à se faire une réputation de maniaque digne de ce nom. Je vous le fais. Ô bonhomère, ce serait pas le désosseur de Saint-Paul-de-Vence que j'aperçois là-bas en train de siroter un pastaga ? Alors, je ne fais pas très bien l'accent méridional, hein, mais on voit tout de suite que ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout la même ambiance. Hein. Avec le désosseur de Saint-Paul-de-Vence, on a envie de bouffer la bouillabaisse, hein, avant d'aller faire une bonne petite partie de bouboule suivie d'une bonne petite promenade digestive à pédalo, non pas dans les bois, mais dans les calanques. Alors que celui de Liverpool, il fout la trouille, hein, parce qu'on se dit que se faire désosser dans un bled tout gris, dévasté par des années d'ultralibéralisme tchatchérien, où un brouillard à couper au couteau ne se lève que quand il se met à pleuvoir des cordes, ça ne doit pas être marrant. À tout prendre, et si on était vraiment obligé de choisir, on préférerait encore se faire émincer le popotin ou tartiner la biscotte. Le truc aussi, c'est qu'il est rare que les gens se portent instinctivement volontaires pour se faire désosser. Alors qu'en y réfléchissant, ça peut être pratique dans certains cas. Je vous le mets en scène pour que vous fassiez une idée de la chose. Ding dong, Maurice, va ouvrir. Si c'est les boueux pour les étrennes, tu choisis pas un calendrier avec une photo de sanglier en train de chier dans les bois comme l'année dernière. C'est pas les boueux, c'est un type qui dit qu'il est le désosseur de Liverpool. Ah oui, c'est moi qui lui ai demandé de passer pour mamie. Quoi ? Tu veux faire désosser mamie ? Bah oui, je me suis dit que comme ça, elle risquerait pas de se casser le col du fémur. Et en plus, elle prendra moins de place dans la voiture quand on partira en vacances de mer à la Bourboule. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? C'est n'importe quoi ! Il n'y a pas la mer à la Bourboule ! Bon, j'ai pas dit non plus que j'avais fait le cours Florent. Hein. Mais vous le saviez, vous, que la fracture du col du fémur est la cause principale des placements en EHPAD et que 20% des personnes de plus de 50 ans qui en sont victimes décèdent dans l'année qui suit leur accident ? Non ? Eh ben voilà, plus de fémur, plus de fracture du col de fémur. Merci, monsieur le désosseur de Liverpool. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas du tout l'angle d'approche qu'a choisi Luc Aveste pour son roman « Le désosseur de Liverpool ». On est dans quelque chose de plus classique, de moins disruptif. Plus le genre tueur en série et légende urbaine avec plein de gens qui se font poignarder à mort sans que leur consentement éclairé n'ait été préalablement recueilli. Et tout un tas de policiers taiseux qui tentent de masquer leur angoisse existentielle derrière un professionnalisme quasi maniaque. Cela dit, c'est pas mal écrit et le suspense est plutôt bien tenu parce qu'il faut vraiment attendre le tout dernier chapitre pour découvrir que le mystérieux désosseur de Liverpool n'est autre que Roger McHumeris, le vendeur de mocassins à glands de Manchester. Alors oui, j'ai oublié de vous préciser que comme je n'ai pas pu faire un CAP de désosseur de Liverpool après le collège, je me suis rabattu sur un CAP de spoiler de polar. Ta-da-da-da. Bref, Le désosseur de Liverpool de Luc Aveste est édité chez Archipoche.
Merci Olivier. Pour une fois que tu parles du livre, et que hein, c'est dingue ça. Tu l'as lu. Eh ben c'est parfait. Et c'est et vraiment le must du chroniqueur, c'est de lire les livres qu'il est censé chroniquer. Tu sais quelle heure il est ? Ben non, c'est l'heure non, du feuilleton radiophonique.
Ouais.
Mais ouais, la bourboule parano dont on vous laisse découvrir. Alors je pense le 15e épisode, mais le 14e épisode. Allez.
Vous connaissez la bourboule ? Eh ben vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La bourboule parano. Le feuilleton, mais in béton.
Précédemment, dans la bourboule parano, il ne s'est quasiment rien passé. Rien de rien. Nada. Ah si j'oubliais, pour la bonne compréhension de l'intrigue de cette histoire hyper réaliste, il faut savoir que Chicken n'est plus un canard. Je répète, Chicken n'est plus un canard, comprenne qui pourra. Autrement, comme Rosa en latin, vous savez, Rosa, Rosa, Rosam, Rosae, Rosae, Rosas, eh ben, le pote Bido, il se décline en Bido, Bidou, Bidon, Rideau, voire Mytho. Pouf, vivement l'épisode 14. 14e épisode et toujours pas d'intrigue en vue. Eh ouais, ben, c'est ça la bourboule parano.
3 heures plus tard, dans la cuisine de la bouserie.
Hé, hey, elles sont comment vos chambres ? La mienne, elle est hyper confortable. Mais qu'est-ce que tu fais, Chicken ?
Je mange des jeux capic.
Bah, il est 4 heures de l'après-midi.
Bah, justement, je goûte.
Bah, tu crois pas que t'as passé l'âge de goûter ? En plus, les jeux capic, c'est dégueu. C'est hyper transformé, c'est bourré de sucre.
C'est toi qui es bourré de sucre ?
Oh bah, c'est vachement drôle, hein. Bon, quand on pense au pauvre canard qu'on gave à mort pour faire du foie gras, et toi, tu t'infliges ça tout seul ?
C'est bon, le foie gras. Hein.
Non, mais tu veux une paire de claques en plus ? Eh, je rêve ou quoi ? Mais tu ne t'es même pas changé ? Tu vas pas garder ce déguisement grotesque jusqu'à la fin du week-end, quoi ?
C'est trop confortable.
Mais il n'est pas à toi, ce costume. Ça se fait pas. Mais il est où, le presse ? Il devait pas aller chercher ta valise à la gare ?
Alors, vous, je sais pas, mais moi, j'en ai écrasé, mais comme une brute.
Mais tu devais pas aller chercher la valise à la gare ?
Si, mais je me suis endormi. Je vais y aller maintenant. Oh putain, Chicken, c'est des chocs à pic que tu manges. Ah, j'y vais, hein, ça doit être bidon.
C'est pas bidon, c'est bido.
Mais t'as intérêt à me laisser des chocs à pic, Chicken. Bonjour madame, vous
Pignon
désirez
de
ah, Chicken, je crois que c'est pour toi.
C'est qui?
Je n'ai pas très bien compris, je crois qu'elle parle mexicain ou colombien, un truc comme ça. Mais tu devrais aller voir quand même.
Bon
sang, on peut même pas goûter tranquillement. Je vais voir, mais tu touches pas mes chocs à pic, hein. Non, non. Je ne suis pas sûr qu'il lui restera suffisamment dedans pour les finir de toute façon. Oui, c'est à quel sujet ? Dis donc, la patronne, il ne te dit pas quelque chose, bidet ?
Ce n'est pas bidet, c'est bido. Mais non, pas spécialement.
C'est bizarre, hein. Je suis pratiquement sûr de l'avoir déjà croisé quelque part, mais où ?
Bah, tu n'auras qu'à lui demander, il ne va pas tarder à arriver, hein.
En plus, rideau, c'est plutôt étrange comme nom, tu trouves pas ?
Ce n'est pas rideau, c'est bido. Mais c'est vrai que c'est un peu chelou hein, comme nom. Tu crois, je sais pas, tu crois que c'est un surnom ou un diminutif ?
Mais un diminutif de quoi ? On connaît, toi, des prénoms qui commencent par Miro ?
Ce n'est pas Miro, c'est Bido. Après, c'est peut-être un prénom composé, genre Bilal Dominique ou Bichente Donatien ou Billy Donald.
Bon, qui appellerait son enfant Bichente Donatien ?
Oh, mais je sais pas, moi, des parents qui sont fans de foot et de sadisme.
Mais alors, bien installé ? me suis permis d'entrer, hein, la porte était ouverte.
Ah, salut Mytho.
C'est pas Mytho, c'est Pito. Tu fais exprès ou quoi?
Bon, hé, je voudrais pas me mêler ce qui me regarde pas, mais je crois que votre ami, là, il est en train de passer un mauvais quart d'heure. Hein.
Non, non, t'inquiète, il discute avec une amie.
À coup de valise?
Elle lui a rapporté sa valise? Oh là là, mais c'est super sympa.
Une valise marron?
Non, rouge.
Oui, c'est ça, c'est la sienne.
Mais dis donc, Bido, parle-nous un peu du festival en attendant que Chicken ait fini de s'amuser. Poisson perché, c'est pas banal ça comme nom.
Ah, ça, c'est une idée de Georges.
La fille de Mimille?
Mais non, Georges Roustaki.
Tu veux dire Moustaku?
Non, Moustaku, c'est l'inventeur de la potée bourboulaise. Georges Roustaki, c'est le roi de la pêche au lancer. Un jour, il a pêché une truite fario, sans mentir. Grande comme ça.
Grande comment?
Comme ça.
Ah ouais, quand même.
Et quel rapport avec la musique? Parce que nous, on est plutôt là pour la musique, pour tout te dire.
Ah, j'y viens. C'était la fin de l'année dernière. Georges était à la pêche, comme d'hab. Il lance, il ramène tranquillement, il relance, il ramène, il mouline. Et là? Bah, il l'a vu.
Quoi? Une truite grande comme ça?
Non, Johnny.
Johnny?
Johnny qui?
Bah, Johnny Hallyday.
Mais il est mort, Johnny Hallyday.
Mais c'est ça qui est fou. Johnny lui est apparu dans un halo de lumière. Et vous savez ce qu'il lui a dit?
Je sais pas, il lui a dit d'allumer le feu.
Ah, t'es marrant, toi, j'adore. Non, il lui a dit que ami pêcheur, tu vas organiser un festival de musique en souvenir de moi-même. Oh yeah. Et après, vous savez ce qu'il a ajouté?
Il a ajouté que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime.
Ah, il a ajouté que tu mêleras toute la musique que j'aime et la pêche, que s'appelle Orio, poisson perché.
Oui, Murphy, vous aussi.
Oh là là, je crois que votre ami, il a fini de discuter avec sa camarade. Hein.
Elle est vraiment sympa, votre fille.
Oh la vache, Chicken, si tu voyais ta tête.
Et du coup, vous avez récupéré ma valise. Elle est un peu défoncée, mais fait très gentil ce soir.
C'est toi qui es complètement défoncé, mon pauvre Chicken. Allez, viens, je vais te tamponner ce qui te tresse de visage au mercurochrome. Mais avant, par pitié, enfile un slibard une bonne fois pour toutes.
Bon, je vous laisse vous préparer, hein. Et on file à la pétaudière. Vous allez pouvoir rencontrer Georges. Vous allez voir, c'est un mec super.
Et tu crois que le fantôme de Johnny sera là?
Ah, t'es une marrante, toi. J'adore.
La bourboule parano. Le feuilleton made in béton.
C'est ainsi que s'achève cette nouvelle émission de la quatrième saison de Des Poches sous les yeux. L'émission, avant de rendre l'antenne et pour ceux qui sentent poindre en eux l'ombre d'une fibre littéraire, je vous rappelle que le célébrissime concours de micro-nouvelles 93.6, 93 mots pour le texte et 6 mots pour le titre, organisé par Radio Béton en partenariat avec l'Université de Tours et la Bibliothèque municipale de la ville de Tours, est toujours en cours et ce jusqu'au 9 février. Alors à vos plumes ou à vos truelles, enfin c'est comme vous voulez. Faites plaisir à Odile et produisez. Autre annonce importante, Clara Breteau, que nous avons interviewée tout à l'heure, a omis de nous préciser que le 30 janvier prochain, elle sera à la boîte à livres pour une rencontre à 19h. Donc, si vous voulez la rencontrer, au-delà de la très bonne interview qu'elle a faite avec Pascal, n'hésitez pas à vous rendre dans le centre-ville de Tours. Un grand merci aux chroniqueurs, à Véro, à la technique, à Antoine pour son accueil. Longue vie à ta librairie. Cette émission sera rediffusée mardi 4 février à 18h. Nous, on se retrouve le 22 janvier, juste avant au quart d'hiver, depuis... Oui, bien sûr, 22 février. Merci Véro qui surveille tout ce que je fais. Depuis un haut lieu de la culture tourangelle, on vous révèle pas le nom hein, parce que ça reste confidentiel. Peut-être... Non, je le dis pas parce que vraiment, le suspense est terrible. On vous souhaite... Et que, car il en est encore temps, une très belle année 2025. Et n'oubliez pas, allez chez vos libraires préférés, dans vos bibliothèques municipales, allez où vous voulez et lisez.
Des poches sous les yeux, l'émission. Ciao.